Bonjour à tous et très bonne année dans le Seigneur. Nous étions avec l'église baptiste de Pessac la semaine dernière. Et avec leur pasteur, Michael Cole et sa famille. Et ils vous donnent le bonjour de leur part. C'était une joie de pouvoir les retrouver dans leur nouveau lieu de ministère et la bénédiction de Dieu sur eux et sur l'église là-bas à Pessac. C'est le premier dimanche d'une nouvelle année. Et il y a une chose qu'on ne peut pas arrêter, et ça c'est le temps. Et quand on arrive à une nouvelle année, ça devrait, je crois, c'est une bonne chose, nous pousser à réfléchir au passé, aux jours, aux mois, aux saisons et aux années, une après une, révolues derrière nous. Nous avançons tous. L'autre jour, j'étais à Carrefour et une dame d'un certain âge m'a arrêté comme ça. Et m'a dit, il ne faut pas vieillir, c'est difficile la vieillesse. Et je lui ai dit, vous savez madame, on vieillit tous au même rythme. Je suis un peu derrière vous peut-être, mais j'arrive aussi rapidement que vous. Et c'est une vérité à laquelle on n'aime peut-être pas trop penser, mais c'est vrai. Et je vous invite à trouver dans vos Bibles peut-être le verset qui est le plus facile à trouver. Et je parle du premier. Au commencement de la révélation, Genèse chapitre 1. Et je veux que vous imaginiez que vous faites partie de ces Israélites qui ont pu échapper à Égypte au temps de Moïse. Parce que nous lisons, il y a 5 livres de Moïse et Genèse est le premier de ces livres écrits par Moïse. La première génération à recevoir ces écrits était ces Israélites dans le désert. Et vous vous demandez peut-être où est Dieu, d'où il est venu et quel rapport il a avec votre vie, votre passé et votre avenir. Ce sont des questions qu'on pourrait se poser encore aujourd'hui. Quel rapport est-ce que Dieu a avec l'année 2018, avec ma vie à moi et mon avenir? Et c'est cette génération, comme j'ai dit, qui a reçu les tout premiers mots donnés par Dieu et destinés à être préservés par écrit jusqu'à nos jours. Et il est très significatif que la première phrase de cette révélation divine commence ainsi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quelqu'un a dit que la première phrase de la Bible est le socle sur lequel repose toute la suite. Je crois que c'est vrai. C'est le socle du sort, tout le reste de la Bible, de cette phrase. Dans cette première phrase de la Bible, nous avons réuni 3 réalités incontournables dans la vie. La première, c'est le temps, introduit par ces mots « au commencement ». Le deuxième, c'est la création, ce qui a été créé, qui est tout autour de nous, et dans nous-mêmes, nous faisons partie de la création. Et la troisième, c'est Dieu, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu la corrélation entre ces 3 thèmes. Et dans mes études, je me suis trouvé en train de découvrir surtout la relation entre Dieu et le temps. Et c'est donc ce thème que je veux explorer avec vous dans ce message thématique. Alors revenons un moment à ces Israélites qui ont pu échapper à Égypte. Ils ont besoin de connaître leur identité. Et après tout, ils ne sont pas des Égyptiens, ça c'est clair, parce qu'ils ont été persécutés par les Égyptiens, rejetés par eux. Mais qui sont-ils? Quelle est leur identité nationale? D'où viennent-ils? Pourquoi ont-ils une relation unique avec Dieu que ceux des autres pays n'ont pas? Et donc, quand Moïse commence à leur raconter leur histoire, où est-ce qu'il va commencer? Si on vous demandait d'écrire une petite synthèse de l'histoire de France ou de votre pays, où commenceriez-vous? Faut-il commencer avec l'exode du pays, faire un peu de cet événement spectaculaire le point de départ de la nation? Souvent c'est comme ça, une grande bataille, on marque un peu la bataille comme le point de départ de la nation. Peut-être faut-il reculer 400 ans jusqu'à Joseph. Je crois que le plus naturel serait d'aller jusqu'à Abraham, le père de la nation, et de parler de lui comme vraiment la source et l'origine de ce pays. Eh bien non, notez où Dieu commence l'histoire de son peuple. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Notez ces quatre premiers mots. Au commencement, Dieu. On ne peut pas reculer plus que ça dans le temps, parce que nous sommes au commencement du temps. Et nous sommes ici confrontés à un moment précis, c'est-à-dire le commencement et à un être qui est Dieu. Et puisque c'est l'acte de Dieu qui déclenche ce qu'on appelle le commencement, c'est clair que Dieu, lui, y précède le commencement. Parce que le commencement est quand Dieu décide de créer. Ça, c'est le moment précis du commencement. Et donc, nous pouvons dire que notre Dieu est un Dieu qui existe en dehors du temps. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, il n'est pas un Dieu qui trouve son origine dans le temps. Notre Dieu, Moïse souligne ici pour les Israélites et pour nous, notre Dieu existait avant le commencement. Ça veut dire qu'il est donc éternel. Il était déjà présent lors du commencement de l'univers. Il est en fait à l'origine de son existence. J'ai fait un peu de recherche sur Zeus, le dieu suprême de la mythologie grecque. Et j'ai appris qu'il était le fils de Cronos et de Rhea. Il avait donc une origine, il est né. Cronos, son père, est lui-même le fils d'Ouranos, qui représente le ciel et la vie, et de sa mère Gaïa, qui représente la terre. Et Ouranos est lui-même donc le fils de Gaïa, qui devient plus tard sa femme. Et c'est donc la terre, selon la mythologie grecque, c'est la terre qui donne naissance au ciel, qui donne naissance à Zeus, le plus grand de leurs dieux. Et avant Gaïa se trouve le dieu Chaos, cet espace immense, indifférencié, préexistant à toute chose, d'où vient notre mot chaos. Et donc dans la mythologie grecque, on commence avec du chaos, et puis la terre, et puis le ciel, et puis Zeus et les autres dieux. Mais la réalité historique et biblique est le contraire. Genèse est le livre d'origine, ça veut dire ça, le mot Genèse veut dire origine. Mais c'est Dieu qui déclenche les origines. C'est Dieu qui existe avant même les origines. Et le moment où il crée s'appelle le commencement. Dieu est donc en dehors du temps. Comme le dit le psaume 90, verset 2, « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Ça, c'est notre Dieu en 2018. Dieu a dit à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Vous voyez la différence? Nous, on n'y était pas. Nous sommes forcément le produit de la création, mais lui était à l'origine de la création. Il est donc différent que nous. Le psaume 93, verset 2 dit « Tu existes de toute éternité. Le psaume 102 dit ceci: « Toi, dans les années dures éternellement, tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Ces versets sont cités dans Hébreux 1, 10 à 12. Habacuc prie à Dieu et il dit: « N'es-tu pas de toute éternité éternel, mon Dieu, mon Saint ?» Le pasteur Lloyd-Jones était un pasteur en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son église, le bâtiment, a eu vu même une bombe tomber qui a détruit une partie de leur bâtiment. Donc c'est quelqu'un qui a vécu des temps troublés, qui a été pasteur à une assemblée dans des temps très très difficiles. Et il a dit ceci, il a dit: « Il n'y a rien de plus réconfortant et rassurant que de se rappeler que le Dieu que nous adorons est en dehors des fluctuations de l'histoire. Quand les problèmes contemporains nous oppressent et que nous nous demandons ce qui va arriver dans le monde, il a précédé l'histoire. Il a créé l'histoire. Son trône est au-dessus du monde et en dehors du temps. Le Dieu éternel règne dans l'éternité. » C'est ça son royaume, c'est dans l'éternité. Nous adorons un Dieu qui vit en dehors du temps. Mais notez une deuxième vérité concernant Dieu et le temps. Et c'est que Dieu a créé le temps. Voyez ça dans ce chapitre, Genèse 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » C'est la création par Dieu qui marque ce que la Bible appelle le commencement. C'est le pasteur Olivier Favre qui l'a dit ainsi: « Nous n'avons pas de date exacte pour le début de la création, mais nous avons un moment précis. À l'instant où Dieu créa le temps, lui qui est éternel et en dehors du temps, il commença la création de l'univers. » C'est la création de l'univers qui marque le commencement. Et si vous lisez la suite du récit de la création, vous verrez toutes ces références au temps. Regardez votre Bible en Genèse 1, regardez le verset 5. « Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Regardez la deuxième partie du verset 8. « Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. » Verset 13. « Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. » Verset 19. « Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. » Verset 23. « Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. » Et tout à la fin du chapitre, à la fin du verset 31. « Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. » Alors, d'où viennent toutes ces références au soir, puis au matin, au fait qu'il y ait le premier jour, qui devient le deuxième jour, puis le troisième jour, etc. D'où viennent toutes ces références au temps? Enfin, d'où vient ce temps, ces jours? Ils viennent de Dieu. Ce sont la création de Dieu, le choix même de Dieu. C'est Dieu qui invente le temps et qui le détermine. Il détermine ce qui sera le soir et le matin. Et dans ce récit, Dieu va donner des noms à plusieurs choses. Par exemple, il va donner des noms au ciel, à la terre, aux mers. Et puis plus tard, en Genèse 5, verset 2, nous dit qu'il donne à Adam et Ève le nom d'homme. C'est le nom qu'il donne à la race humaine, homme. Mais notez ce qui se fait lors du premier jour de la création. Regardez le verset 3, Genèse 1, verset 3. « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu appela la lumière jour. » Et il appela les ténèbres nuit. C'est ainsi, parce qu'il a fait ainsi, qu'il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc la première chose qu'il fait, avant même de créer la lune et le soleil qui apparaissent au quatrième jour, c'est de créer la nuit et le jour. Avant donc le quatrième jour, la lumière du jour venait directement de sa parole créatrice. Il dit, vous l'avez au verset 3, que la lumière soit, ben, la lumière fut. C'est de là que vient la lumière, sans cause instrumentale. Plus tard, il va comme prendre toute cette lumière et la mettre dans le soleil qui ne pourra depuis faire autrement que d'émettre sans cesse cette lumière que Dieu lui a donnée. Mais au tout début, ça vient simplement parce que Dieu l'a dit. Et ce que cela veut dire, c'est que ce n'est pas le soleil qui fixe le rythme du jour et de la nuit, mais que Dieu a configuré le soleil pour qu'il soit conforme au rythme du jour et nuit que Dieu avait déjà établi. C'est Dieu qui a inventé le jour et la nuit. Et cela devient encore plus clair quand vous regardez le récit de la création du jour 4. Sachez qu'il y a une correspondance, quand vous lisez, entre le premier et le quatrième jour, le deuxième, le cinquième, le troisième et le sixième jour de la création. Et donc le premier et le quatrième jour vont ensemble. Regardons le quatrième jour, verset 14, Genèse 1, 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles et Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Alors notez en passant qu'on ne trouve même pas le nom du soleil et de la lune. Vous avez remarqué ça? Le verset 16 dit simplement que Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. On voit que Dieu, plutôt il a dit que Dieu donne le nom, il appelle le ciel et puis il appelle la terre sec la terre. Mais ces lumières restent son nom. Dieu dit simplement que Dieu a fait deux lumières, une qui est plus grande et une qui est plus petite. C'est presque banal, la façon qu'elle est présentée. Et la raison peut-être, c'est qu'à l'époque de Moïse, déjà beaucoup de nations adoraient le soleil et la lune. Plus tard, en fait, Moïse va leur dire, « Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Ce sont des dons de Dieu, mais veille sur ton cœur pour que tu ne te mettes pas à les adorer. » Et donc, je crois qu'il y a ici un désir exprès de, en fait, minimiser l'importance du soleil et de la lune. Ce sont des instruments que Dieu utilise. Mais à quoi servent-ils? Notez le verset 14. Ils servent, je lis ici dans le second 21, ils servent de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Vous voyez ça? Ils servent de signes. Pour Dieu, ce sont des signes pour marquer pour nous les jours, les années et les époques. Et ça a été le cas depuis le commencement. Ce que cela veut dire, c'est que ce n'est pas le soleil qui fixe même le rythme de l'année, mais que Dieu a configuré le soleil et la révolution de la terre autour du soleil pour qu'il serve de signe pour marquer les époques déjà choisies est déterminée par Dieu. Mais les époques, les jours, les années viennent de Dieu. Lui qui a créé ces choses. Et une année, à l'origine, une année est une unité de temps mesurant les phénomènes liés à une révolution complète de la Terre autour du Soleil. Et le monde a toujours reconnu, avec les saisons, hein, surtout, ils ont savé pas peut-être qu'il y avait 365 et un quart jours dans l'année, mais avec les saisons qui se répètent depuis la création du monde, la Terre observe ce rythme d'une année après une année. Donc nous voyons que Dieu, qui est hors du temps, crée le temps. C'est pour notre bien. Mais ce qui est merveilleux est le fait que même qu'il soit hors du temps, ne veut pas dire qu'il ne peut pas opérer et agir dans le temps. Il n'est pas du tout handicapé en ce qui concerne le temps. Il n'a pas ses mains liées parce que lui, il est dans l'éternité, il ne peut pas agir dans le temps. En fait, Pierre nous dit qu'il faut savoir une chose, bien aimé, c'est que vous ne devez pas ignorer que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, lui, il peut manipuler le temps comme il veut, parce qu'il est Dieu. Il peut agir avec tout son temps, entre guillemets, parce qu'il est hors du temps, dans une fraction de notre seconde, et il peut traverser des milliers d'années comme si ce n'était rien. Et dans cela, nous voyons une troisième vérité, c'est que Dieu contrôle le temps. Nous avons déjà vu la preuve de ceci dans le fait que Dieu détermine la durée du jour, de la nuit, la succession des jours l'un après l'autre. Mais regardez, vous êtes en Genèse chapitre 2, les premiers trois versets. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour. Il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc voyez-vous tout simplement l'autorité de Dieu sur le temps. Il bénit, il sanctifie, ça veut dire il va mettre à part un jour. Pourquoi est-ce qu'il met à part un jour? Parce que lui, il a fait quelque chose de différent ce jour-là. Il prend l'autorité sur le temps en mettant un jour. Nous avons déjà vu les jours, les années, les époques, mais maintenant installe par la volonté de Dieu ce rythme de sept jours, où le septième jour est pour lui un jour de repos. Mais peut-être le contrôle qu'a Dieu du temps est le plus frappant dans la menace qu'il donne à l'homme. Regardez le verset 16 de Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous voyez le contrôle de Dieu sur le temps de l'homme ? La mort est entre autres la cessation de notre existence dans le temps. Notre âme, elle quitte ce royaume gouverné par le temps pour passer dans l'éternité. Et Dieu dit, tu cesseras de vivre ici. Ton temps sera terminé. Et bien sûr, Satan, il arrive et qu'est-ce qu'il a sur Ève ? Ben non, c'est une blague. Tu ne mourras certainement pas. Mais si vous lisez Genèse chapitre 5, vous verrez que Adam et Ève meurent. Que la génération qui le suit meurt. Que la troisième génération meurt. Que la quatrième génération meurt. En Genèse 5, il y a une génération après une autre génération et ça termine à chaque fois qu'il meurt. Il ne faut pas penser à la mort comme la suite naturelle de la vie. La mort n'est pas normale. J'étais avec mon voisin une fois aux obsèques d'une voisine à Goussainville et il m'a dit un peu en entrant dans l'église catholique, il a dit « Bon, c'est comme ça la vie. » Ben non, c'est pas comme ça la vie. La mort est le contraire de la vie. Et ce n'est pas non plus, faut pas non plus penser que la mort vient de Satan. C'est Satan qui nous met à mort. C'est pas la vision biblique. La mort vient de Dieu. C'est un acte juridique de punition sur le péché. Il a résolu cela pour toutes ses créatures. En Genèse 6, il dit ceci, verset 3, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Auparavant, il vivait beaucoup plus longtemps. 700, 800, jusqu'à 900 ans. Et maintenant, Dieu dit, non, je vais le diminuer à 120. Et plus tard, au temps de Moïse, c'est encore diminué encore plus. Le psaume 90 dit « Tu fais retourner les hommes à la poussière ». Vous voyez, c'est qui? Pourquoi est-ce qu'on meurt? C'est parce que Dieu nous fait retourner à la poussière. C'est un acte juridique de Dieu le juge. Et tu leur dis, fils de l'homme, retournez à la terre. Il dit plus tard dans ce psaume « Nous sommes consumés par ta colère, ça c'est la mort, elle vient à cause de la colère de Dieu. Et ta fureur nous épouvante, tu mets devant toi nos fautes, et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère, nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à combien d'années ? 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous en volons. C'est quand même audacieux pour quelqu'un, si ça aurait été inventé par un homme, de dire, bon, l'année sera, des hommes sera 70 ans. Moi j'aurais dit, mais peut-être avec, je ne sais pas, les avancements de la médecine, etc., ça va changer, peut-être j'ose pas dire ça. Mais là c'est Dieu qui le dit. J'ai cherché hier soir sur Internet, pour l'espérance de vie dans le monde entier. Et j'ai trouvé deux chiffres. Un qui est donné par l'ONU et l'autre par une autre organisation internationale. Je vous donne les deux chiffres. Un était de 69 ans et l'autre était à 71 ans. Et qu'est-ce qu'il dit ici? 70 ans. Après 3000 ans, après Moïse, tous nos hôpitaux, etc. Notre espérance de vie est pareille. Est pareille. Et nous souffrons autant qu'ils souffrent. Ceux qui sont malades ici ce matin vont vous le dire. On souffre autant qu'ils souffraient. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide. J'ai même lu, il y a quelques mois, que l'espérance de vie a même baissé cette année, enfin l'année dernière, en France. En tout cas, le Dieu qui se présente à Israël est le maître du temps. Le maître du temps. Le Dieu qui les avait laissés pendant 400 ans en Égypte. Et le créateur même du temps. Ils apprennent que c'est Dieu qui gère le temps quand Dieu les retienne dans le désert. Pendant 40 ans, ils doivent se dire, mais 40 ans, comment est-ce qu'on peut subsister 40 ans? C'est Dieu qui contrôle le temps. Et nos afflictions, la partie la plus dure des afflictions, c'est la durée, n'est-ce pas? La durée, c'est ce qui rend difficile n'importe quelle difficulté dans la vie. Je peux supporter quelque chose pendant 3 minutes, mais quand ça reste 3 ans ou 30 ans, c'est là où je me sens épuisé et sans force. Mais sachez que c'est Dieu qui contrôle le temps. 2018 est là parce que Dieu l'a voulu. Comme il y aura un commencement, il y aura une fin pour tout homme. C'est pour ça que le psaume 136 dit « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur mon livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Parlez de la petite Esther. Tous ces jours sont déjà inscrits, décidés par l'Éternel. Et pensez à vous-même, même les jeunes. Dieu sait le jour de votre mort. C'est déjà arrêté. C'est inéchappable. Bon, c'est pas un mot, mais c'est vrai. On ne pourra pas ne pas mourir quand le temps vient où Dieu le décide, et l'a déjà décidé. Vous ne pouvez rien faire contre le temps. Nous vieillissons tous, et la mort viendra un jour nous surprendre. Horace, un poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, il a dit « Un à un, nos biens nous sont pillés par les années qui passent. » C'est le sentiment de la vieillesse. Et les seuls qui ne vieillissent pas sont ceux qui meurent avant de vieillir. Donc vous allez vieillir si vous ne mourrez pas auparavant. Et il y a une chose qu'il faut donc reconnaître ici, au début de 2018, c'est que je n'ai aucune promesse de Dieu que je serai là dans un an, que je verrai 2019. Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas moi qui contrôle ces choses, c'est Dieu. Et donc nous devons prier, revenons à ce psaume 90, comme Moïse a prié. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions notre cœur à la sagesse. » C'est une folie de ne pas penser à la mort. Mais ce qui est époustouflant, c'est que le Dieu qui existe hors du temps, qui crée le temps et qui contrôle le temps, est un Dieu qui entre dans le temps. Dans le temps. Et la Bible souligne ce fait même dans l'Ancien Testament que quelqu'un qui vient de l'éternité entrera dans le temps. Nous voyons cela par exemple en Michée chapitre 5 et verset 1 où il dit « Et toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dans l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Où est son origine? Son origine remonte au jour de l'éternité, mais il sortira de la petite ville ou le petit village de Bethléem. Comment quelqu'un de l'éternité sortira-t-il de Bethléem? Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Déjà, il y a un clin d'œil à ce fait, parce que l'enfant est né, naissance. Mais le fils, il est quoi? Il est donné, comme s'il y avait une préexistence. Et la domination reposera sur son épaule. Et voici ce qu'on l'appellera, admirable conseiller, Dieu puissant. Un enfant nous est né et on l'appellera Dieu puissant. Père éternel, prince de la paix, le Fils qui est donné sera appelé Père éternel. Alors il ne faut pas confondre cette phrase avec Dieu le Père. Il n'est pas appelé ici Dieu le Père. Mais c'est l'idée de, c'est un titre, le Père de l'éternité. Il est le Père de l'éternité. Nous sommes le résultat du temps, et lui, il est le Père de l'éternité. Cet enfant qui est né sera appelé Père éternel. Nous avons lu en Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et il y a une référence indubitable en Jean 1, quand l'Écriture nous dit, vous voyez le lien avec Genèse 1 ici, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On a parlé de trois choses. Il y a le temps, il y a la création et il y a Dieu en Genèse 1. En Jean 1, il y a ces trois choses encore. Il y a le commencement, il y a Dieu, la parole qui est Dieu et toutes choses, il y a la création, toutes choses ont été faites par cette parole. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Et le verbe ici est important, c'est le verbe, c'est un imparfait, était. C'est pas il est devenu, c'est-à-dire au commencement, c'est pas que la parole est devenue Dieu au commencement, comme les cieux et la terre ont été créés au commencement. Mais au commencement, dans l'imparfait, était quelqu'un, était la parole, il y était déjà. C'est-à-dire son existence et auparavant, avant le commencement de temps. Ça parle de son caractère illimité, de son existence. Ça correspond à ce que Jésus dira plus tard en Jean 8, verset 58, où il dit « Avant qu'Abraham fût, avant qu'il soit venu à l'existence, moi, je crois. » Je suis, qui est une référence à Dieu quand il vient à Moïse. Et il dit, tu leur diras, je suis. C'est le verbe être, dans son présent. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. C'était le Dieu, quelqu'un l'a traduit comme ceci. Le Dieu qui a... il sera toujours ce qu'il a toujours été. Quand il dit, je suis, c'est-à-dire, il n'y a pas de présent, futur, il est toujours pareil. Mais vous connaissez le verset 14. Il était toujours Dieu, mais, et là le temps du verbe change ici, la parole a été faite chair. C'est-à-dire à un moment précis dans le temps, elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et tout le monde, dans le monde, ont fêté 2018 années après cet événement. Et même si nos calculs n'ont peut-être pas exact 2 ou 3 ans de différence, le fait que nous avons le chiffre 2018 fait référence à quand le Dieu éternel est entré dans le temps pour nous sauver. Ça, c'est le message de Noël. Et tout cela est lié au fait, dernièrement, que Dieu a un plan pour le temps. C'est merveilleux, il est hors du temps, il entre dans le temps, mais le temps n'est pas perdu. Il a un plan pour le temps, comme nous avons déjà vu en 2 Pierre, que un jour est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans sont comme un jour. Et donc quand Dieu commence à raconter leur histoire à ses enfants d'Israël perdus dans le désert, il commence ici, au commencement de toute l'histoire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ce que la Bible nous enseigne par la suite, que ce n'est pas seulement l'histoire de la race juive, cette histoire est notre histoire, à nous. Dans le même livre, nous avons Abraham, à qui Dieu dit qu'il sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc c'est notre histoire qui commence ici. Et il n'y a pas de plus grande histoire parce qu'elle englobe vraiment tout le monde et toute l'histoire. Ça, c'est notre histoire en tant que chrétien. Notre histoire englobe toute l'histoire du monde. Si on veut raconter l'histoire de ce que Dieu fait dans le monde, il faut commencer au tout début, à la création. On ne fait pas une partie de l'histoire du monde. Non, toute l'histoire du monde est englobée dans cette grande histoire. Et nous devons sentir quelque chose de la gloire, de la merveille, de pouvoir trouver notre place dans cette histoire. Vous êtes invités, vous dites, qui suis-je? Ici, Saint-Denis, premier dimanche de 2018, qui me connaît, vous êtes invité à faire partie d'une histoire qui est la plus grande histoire du monde. Une histoire qui débute au commencement. Et nous vivons donc dans une suite chronologique, et cela nous donne une perspective sur notre époque. Nous sommes la suite de ce qui a eu un commencement. Nous sommes un enchaînement vers ce qui aura un jour une fin. Et ça nous aide à voir, donc même 2018, pas d'une façon trop étroite, comme certains le feraient, ils vivent comme s'il n'y a pas de lendemain, et donc tout est pour aujourd'hui. Mais non plus une perspective trop petite. Parce que ce qui se passe en 2018 est essentiel pour qu'on arrive à la fin. Si tu es en Christ, tu fais partie de cette belle histoire. Elle est plus grande que l'histoire de ta vie, plus grande que l'histoire de l'Europe. Elle englobe tous les peuples du monde, de tous les âges. Et ce mot « commencement », au commencement, c'est un mot relatif, n'est-ce pas ? Qui vous place par rapport à tout le reste. Si vous avez une tâche à faire, il y a 10 étapes, on vous dit, bon, commencez ici. Ça, c'est le commencement. S'il y a un commencement, ça suggère donc qu'il y a quoi par la suite. Il y a une suite. S'il y a un morceau de musique et on vous dit, ben, je vais vous jouer le commencement du chant. Vous allez supposer qu'il y a une suite. Et Dieu vient à ce peuple dans le désert, il leur dit, oh, commencement, et on se demande, mais au commencement de quoi? Est-ce que le commencement, c'est le commencement de la création? Ben, je pense pas, parce que la création est elle-même le commencement. Vous voyez, ce serait presque un non-sens de dire, au commencement de la création, Dieu créa. La création est elle-même le commencement, elle n'est que le commencement. Elle est la première étape d'une série d'étapes qui se suivent les unes après les autres. Donc, au commencement de quoi ? Ben, pas de la création, mais de quelque chose de plus grand que la création. De dire la création par Dieu est le commencement suggère que l'histoire comprend plus que la création. La création n'est donc que la première étape, mais de quoi ? Ben, le mot Genèse, comme j'ai dit, veut dire origine. Et ce livre est en fait un livre d'origine et de commencement. Il y en a plein de commencements. Nous avons le commencement de l'univers, nous l'avons vu. Nous avons le commencement de la race humaine. Notre commencement était la même. Nous sommes tous de la même race. Nous avons le commencement de la famille, avec des implications encore pour aujourd'hui. Nous avons aussi le commencement du péché. Nous avons le commencement des nations du monde. Nous avons le commencement de la nation d'Israël. Presque toutes les doctrines dans la Bible, vous pouvez trouver leurs origines dans le livre des origines qui est la Genèse. Mais surtout, l'histoire qui est développée à travers toute la Bible, c'est le commencement de l'histoire de la rédemption. En résumé, nous avons en Genèse Dieu qui se crée un royaume et qui donne le règne de son royaume à un être créé à son image. Et puis, très vite, entre Satan et le péché qui tente de détruire le plan de Dieu pour son royaume. Mais Dieu, tout de suite derrière, Dieu a un plan. Et vous savez, le temps est du côté de Dieu. Il peut attendre. Il n'est pas pressé. Il va se servir de la semence d'Ève. Et puis nous lisons de d'autres naissances, jusque nous arrivons à la naissance d'Abraham. Et Dieu nous dit, ah, il va se servir de la semence d'Abraham maintenant. Pour restituer ce qui a été perdu. Et le livre de Genèse est le début, ce sont les origines de ce plan qu'a Dieu pour tout le temps. Et ce plan trouve sa culmination en ce que Galates nous dit, lorsque les temps qui ont débuté en Genèse, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. C'est-à-dire, il est entré dans le temps. Né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. C'est comme la cime d'une montagne. Le temps accompli. Et puis maintenant, nous allons vers quoi maintenant en 2018? Nous allons vers la fin. Parce que la Bible parle du commencement, mais cela devrait nous donner envie de connaître son antonyme, qui est quoi? Et son partenaire. Et le commencement, et de l'autre côté, il y a la fin. Et effectivement, quand vous lisez le dernier livre de la Bible, on ne vous raconte pas le commencement, mais on vous raconte quoi? On vous raconte la fin de toute chose. Et l'histoire du monde, comme celle de votre vie, a un commencement précis et une fin précise. Les deux sont choisis et déterminés par Dieu. Nous comptons le temps en avance. Nous disons 2016, et puis après il y a 2017, et puis il y a 2018, peut-être un jour il y aura 2019. Mais il se peut que Dieu compte à l'envers. 1 Corinthiens 15 dit ceci, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Et puis verset 24, « Ensuite viendra quoi ?» La fin. Et ce que nous apprenons, c'est que la fin est en fait le début de l'éternité. C'est la fin du temps, mais le début de toute une suite. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne, juste qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Quand la mort est morte, ce sera la fin du temps et le début de toute l'éternité. Il se peut que Dieu effectue un compte à rebours, comme on dit. Il voit la fin. Il la voit arriver. Et ce n'est pas à nous de savoir la date. Mais la fin viendra. Et nous savons que la Bible nous dit que le temps est proche. Donc le Dieu qui existe en dehors du temps, qui a créé le temps, qui contrôle le temps, qui entre dans le temps pour nous sauver, il a un plan pour le temps qui sera un jour complètement accompli. Et il n'y aura plus de temps. Alors quelle application devons-nous faire? Dans la Bible, il y a au moins deux, qu'on trouve plusieurs fois. Celle qui est répétée le plus souvent, c'est le besoin d'être prêt. D'être prêt. Pensez aux paraboles des serviteurs où le maître est parti, il revient un jour qu'ils ne savent pas. Ou les 10 vierges qui sont là, qui attendent le mari qui arrive, mais elles ne savent pas exactement quand il va revenir. Et plusieurs paraboles où Jésus démontre que certains seront prêts, certains ne seront pas. Certaines de ces jeunes filles seront prêtes, certaines ne seront pas prêtes. Et dans ces salles, pour vrai dire, il y a des jeunes qui ne sont pas prêts. Et la Bible dit que quand Jésus revient, il viendra comme un voleur. Un voleur, il ne vous envoie pas un mail en avance pour vous dire... Quand il arrive, il choisit son arrivée par rapport à un moment où on l'attendrait le moins. Et donc, la seule certitude, c'est quand Jésus revient, nous serons tous surpris. Sa seule certitude, nous allons être surpris. Et donc, il faut être prêt. Tout genou fléchira, c'est vrai, et toute langue le confessera comme étant Seigneur, mais pour certains, ce sera trop tard. Et c'est pour cela que la Bible dit que le jour du salut est quand? Aujourd'hui est le jour du, Seigneur, du salut. Si Dieu nous donne le 7 janvier, il nous donne un jour de plus de grâce pour votre salut. Aujourd'hui, le 7 janvier, et le jour du salut. Demain le 8, c'est pas pour ça. Demain le 8, c'est peut-être votre mort. C'est peut-être autre chose. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. On ne remet pas le salut au lendemain. C'est une grâce, mes amis, que vous vous êtes levés ce matin, vous dites, bon, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est parce que Dieu l'a choisi. Il y a beaucoup de personnes qui meurent dans leur sommeil. Qui meurent comme mon papa il y a 10 mois, dans sa voiture, sans savoir 10 minutes avant qu'il allait mourir. Et vous, aujourd'hui est le jour du salut. Quelle tristesse, quelle tristesse. Et vraiment, je prie pour certains de nos jeunes ici qui remettent au lendemain ce qui devrait être réglé aujourd'hui. Donc, il faut être prêt. Et je vous laisse réfléchir à cela. Et le deuxième, c'est puisque Dieu peut agir dans le temps, il a un plan pour le temps, il nous dit de racheter le temps. Racheter le temps. Nous pouvons le faire. Même si on est alité, malade, et on sait qu'on ne va peut-être jamais plus se lever pour faire quoi que ce soit, on peut, sur un lit de malade, racheter le temps. On peut, à l'hôpital, racheter le temps. On peut, dans des situations très, très difficiles, avec beaucoup de pression qui viennent de partout, nous pouvons quand même racheter le temps. Utiliser le temps de la façon dont Dieu le désire. Et nous pourrons, si Dieu dans sa grâce nous amène jusqu'à la fin de 2018, une année qu'il a lui-même choisie, nous pouvons avoir la joie de savoir que nous avons grandi dans le Seigneur. Nous avons travaillé pour le Seigneur. Et que notre œuvre ne sera pas vaine dans le Seigneur. Soyons prêts et rachetons le temps. Prions. Ô Seigneur, Père éternel, nous sommes des enfants d'hier et notre vie passera comme un songe dans la nuit. Notre vie est un souffle qui apparaît, qui disparaît aussitôt. Dans ta grâce, nous prions, nous te prions de nous donner, de vraiment impressionner sur nos consciences la réalité de la fragilité de nos vies, de l'incertitude de nos vies et du fait que nous allons tous nous trouver devant le jugement de Dieu et que ce temps viendra certainement plus rapidement qu'on le pense. Oh, qu'il n'y ait personne qui a entendu la voix du Seigneur ce matin dans sa parole. Qu'il n'y ait personne qui endurcisse son cœur, comme ont fait les Israélites, qui ont été les premiers à recevoir ces mots en Genèse. Mais qui viennent à Christ pour le salut de leurs âmes. À toi la gloire, à toi le règne, dans ce siècle et au siècle des siècles. Amen.